حشدتهما. Je suis en chiot, mais ça dépend ce que vous avez à demander. Appelez-moi après le chiot, alors. 11h. Allô? Bonsoir. Alors, on entre dans une nouvelle sorte de problème. Jusqu'à présent, on était au Sinaï. Et maintenant, on va se fabriquer un petit Sinaï. Quelque part, maintenant on va construire le Mishkan. Et certains disent que d'une certaine manière, ce qu'on va construire, c'est on va construire quelque chose qui représente le Sinaï. Quelque chose qui, si vous voulez, concrétise le Sinaï. Alors, c'est quelque chose qui va être, a priori, donné aux hommes à construire. Et non seulement ils vont le construire, mais ils vont devoir fournir les matériaux pour le construire. Alors, on verra après que, même quand on aura tout fait tout ce qu'il faut pour pouvoir le construire, on n'arrivera pas à le faire tenir. Il faudra qu'Hachem aide pour que ce Mishkan, cette résidence d'Hachem, tienne debout. Mais on en est pour l'instant aux préparatifs. Et on est au tout début des préparatifs. Et d'abord, Hachem et le Moshe, les morts, Hachem parle à Moshe pour qu'il le répercute. Et il lui dit, d'abord, El Bene Israël, parle, mais sous forme, c'est une parole dure, ça veut dire c'est un ordre. D'aber el bnei Israël, parle au bnei Israël, vikhu li teruma. Et ils prendront pour moi, dit Hachem, teruma. Truma, c'est un prélèvement. Dans truma, vous avez la racine reshmem, ram, qui veut dire élevé. Teruma, c'est vraiment un prélèvement. Je pense qu'en français, c'est une bonne façon de rendre le mot trouma que de dire que c'est un prélèvement avec l'idée de lever qu'il y a dans le prélèvement.
C'est un lèvement.
Quoi? En français, il n'y a pas de lèvement. Ça n'existe pas. Et un prélèvement, ça veut dire, on va voir que c'est quand même un prélèvement. Qu'ils prennent pour moi de la trouma, mais et de kol ish, tout homme, cher, il devient au libo, que son cœur porte à donner. Il devient, c'est la chose nedava. Son cœur le porte à la générosité, en fait. On veut quelque chose que l'homme ait envie de donner, qu'il veuille donner. Donc, si vous voulez, c'est un peu ambigu parce que entre le ton parleur et véhicule qu'ils prennent, on a l'impression qu'on va quasiment prélever un impôt. Et après on dit, voilà, on le prend seulement chez celui que son cœur porte à donner. Donc, mais et kol ish asher idvenu libo tikhu et trumati, vous prendrez ma truma, mon prélèvement. Alors comment est-ce qu'il faut distribuer les choses? C'est-à-dire, est-ce que c'est un impôt ou est-ce que c'est une contribution volontaire? Vezot a truma asher tikhu meitam, et voici la truma que vous prendrez d'eux. C'est-à-dire, là, du coup, tikru meitam, on peut aussi imaginer, tikru, vous prendrez dans la mesure où ils vous le donneront. C'est pas, tikru ne veut pas dire obligatoirement, dans le sens du mot, ça ne veut pas obligatoirement dire qu'on va prendre sans qu'ils en soient d'accord. Bon, je lis encore un peu. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Trois métaux, zav, vachesef ou nechoshet. Or, argent et cuivre ou airain. Ces métaux. Ou trelet, vergaman, vetolat, chani, vechesh, veizim. Ça, c'est ce qui va servir à faire des tentures ou des couvertures. Ve'orot elim meodamim, ve'orot chashim, et des pots de elim, des béliers, meodamim, rouge, c'est une sorte, probablement, teinte en rouge éventuellement, ve'orot chashim, le tachash, c'est un animal qui n'existait qu'à cette époque-là, qui n'a existé que pour qu'on puisse prélever sa peau et l'utiliser comme une des tentures du Mishkan. Il était là, à cet endroit-là. Vatsé Shittim, et des bois de Shittim. Les bois de Shittim, c'est les bois d'acacia dont on avait parlé il n'y a pas si longtemps. Ensuite, il faudra prendre Shemen, de l'huile, toujours de l'huile d'olive, toujours. La Maor, pour éclairer, c'est-à-dire pour la menorah. Bessamim, le Shemen Amishra, des parfums pour que l'huile d'onction qui va servir à oindre, on va voir qui, quoi, comment, elle doit être parfumée, donc il faudra des besamim, il faut des parfums pour la parfumer. Veliktoret Asamim, et aussi pour l'encens, enfin pour le brûlement des parfums, si vous voulez. Ensuite, on prendra aussi Avne Shoam, Avne Milouim, l'Aifod de la prochaine. Ce sont des pierres précieuses, des pierres qu'on va. On dit ça quand on a enchâssé dans le Ephod et dans le Choshen, c'est les vêtements du Kohen Gadol. Vasulim Migdash, et ils me feront un sanctuaire, Veshachanti Betocham, et je résiderai parmi eux. Que Kol Asher Ani Mareotra, tout comme je te le montre, et Tavnita Mishkan, la forme, les dimensions du Mishkan, et Kelav, et la forme, les dimensions de tous les ustensiles, le Chenta Asu, et vous ferez comme ça. Alors, et ensuite, on s'embarque dans la description des différents kelim, comme on dit, c'est-à-dire on va dire comment on a fabriqué d'abord le Aaron, c'est-à-dire l'arche dans laquelle les louchot vont être déposés. Et ensuite, on va faire Badei Atseishitim et Betzipita Otam Zahav. Tu mettras les badim dans les tabaot, tu vas faire des barres. Faire des barres pour porter le haron. Il va y avoir des crochets, si vous voulez, sur le haron pour qu'on enfile des barres dedans et que les gens qu'on puisse porter le haron sur les épaules. Et tu mettras dans le haron, tu mettras les et ha'edut. Tu mettras le témoignage que je te donnerai. Voilà, en gros, cette première montée. Alors, regardons d'un peu plus près. Rashi. Vikhuli Truma. Ils prendront li pour moi. Je me dis, qu'est-ce que ça veut dire li? Ça veut dire lishmi. Pour mon nom. C'est-à-dire, ils prendront la truma. La truma, elle ne sera pas. On ne va pas prélever la truma pour construire le Mishkan. Ils prendront la truma pour moi, dit Hachem. Le prélèvement, il est pour moi. Ce qui est toujours évidemment un peu compliqué, puisque les choses, tout ce qui existe dans le monde appartient à Hachem. Donc, prendre pour moi comme si vous allez me donner quelque chose, alors, vous pouvez pas, on ne peut pas dire simplement que si effectivement les hommes avaient quelque chose qui n'appartient pas à Hachem, alors on pourrait dire, Vikhuli, vous me prendrez pour moi, c'est vous me le donnerez. Ou vous dessaisirez de ce qui est à vous et vous me le donnerez. Mais là, de toute manière, c'est déjà Hachem, donc ce qu'on va faire, c'est un en plus que, quelque part, on ne peut pas lui donner au sens où on va lui donner ce qui est déjà à lui. Donc quand on dit « Vikhuli, prendons pour moi », ça veut dire « c'est l'ishmi ». C'est-à-dire ça doit être dédié en quelque sorte. C'est votre intention, elle doit être de me le donner à moi. C'est au niveau de l'intention, puisque concrètement, c'est déjà à moi. Ça m'appartient déjà, puisque tout m'appartient. Oui, il ne faut pas que ça soit, même pas viser le Mishkan, etc. Non, pour moi. Comme si, à la limite, comme si vous ne saviez pas non plus de ce qu'on allait en faire. C'est-à-dire que, ensuite, je vais vous donner des ordres de ce qu'on va faire avec qu'est-ce qu'on va faire de cette trouma qu'on aura récoltée.
Le Hachem, bon. Dans le sens où c'est réservé pour entendre Trouma Hachem.
Et qu'est-ce que c'est Trouma Hachem?
C'est spécifique, quoi. Ça rentre dans le but.
Mais on ne connaît pas, pour l'instant, c'est la première occurrence de ce mot de Trouma. Mm-hmm. Donc, voilà, c'est un prélèvement que vous allez me le dédier, en fait. Le Netziv dit dans Amek Davar, Rashi dit li lishmi, li ça veut dire lishmi, et on trouve la même chose dans la Mechilta, sur le pasuk, Mizbeach Adama ta'ase li, tu me feras un autel de terre. L'autel, c'était un espèce de cadre qu'on remplissait, qu'on avait rempli de terre. C'était ça l'autel. Et là-bas, c'est marqué Misbeach Adama, Misbeach Adama, Taase Li. Là aussi, dit la Mechilta, Li, ça veut dire Lishmi. Et dans la Tosefta de Megillah, on dit aussi Kelim Shenasu Mitrila Le Idiot, Enosin Tam Ligvoa. Pourquoi? Parce que c'est marqué Vasu Li Migdash Lishmi. Ça veut dire, il faudra que depuis la démarche, ça soit destiné, à Hachem. C'est pas quelque chose que j'aurais fait. On va pas utiliser les kélim. Tiens, je me suis fait un jour un très bel ustensile. Il se trouve qu'on en a besoin au Beit Hamikdash. Je vais le donner au Beit Hamikdash. Non, ce que je veux, c'est On va voir ces choses-là, elles ont été faites dès le départ, dans l'intention de le donner à Hachem. Mais ici, Kan caché. Mais ici, dit le Nassif, c'est un peu difficile. D'après les commentateurs, les Mefarshim qui disent Dmitrila, Nitzave la Asot Mishkan Minidvat Lev. Parce que dès le départ, Moshe Rabbeinu reçoit l'ordre de construire le Mishkan avec des choses Nidvat qui sont données de tout cœur, en fait. Imken Beshat Anedava. Mitkadesh Likvoa. Donc quand les gens le donnent, ça devient Kadosh, ça appartient à Hachem. Pourquoi est-ce qu'il faut que les Gabaïm le prennent pour l'Hachem Hachem? La question de Nessif, c'est la suivante. Quand on veut que Monsieur Tout-le-Monde, qui va donner de l'or au Beit HaMikdash, enfin comme Trouma, puisqu'on veut que ce soit donné par de bon cœur, dans l'année d'avant, quand la personne décide de le donner à Hachem, voilà, elle a acquis sa Kdusha. L'objet, il ne peut plus revenir en arrière maintenant. D'accord? Du seul fait qu'il a décidé de le donner, ben voilà, c'est donné. Maintenant, tu vas envoyer Vikrouli, on va envoyer des Gabaïm, on va envoyer des gens responsables pour prélever. Et on dit Vikrouli, ils doivent prélever pour moi. D'accord? C'est un lishmi. Et à quoi ça sert d'avoir cette exigence-là? Puisque de toute manière, c'est déjà celui qui a décidé de le donner, il l'a déjà donné, l'Hachem Hachem. Donc ça appartient déjà à Hachem. Donc les carottes sont cuites, c'est-à-dire, si vous voulez, il n'y a plus rien à ajouter. Le fait qu'ils viennent prélever au nom d'Hachem, ça n'ajoute rien du tout, puisque ça appartient déjà à Hachem. On n'a pas besoin que dans le prélèvement, dit le Netziv, on n'a pas besoin que le prélèvement donne de la Kdusha, que le prélèvement en fasse quelque chose qui soit pour moi. C'est déjà pour moi au moment même où il a décidé de le donner, celui qui l'a donné. D'accord? C'est clair? Lorsque A a décidé de donner, il venait 100 grammes d'or, il a pris ses 100 grammes d'or et il a dit, voilà, je vais les donner à Hachem, je les donne à Hachem, c'est fait, ça appartient à Hachem. Maintenant, celui qui prélève, celui qui est responsable, il vient chez lui, il tape à la porte, il dit, est-ce que tu veux donner quelque chose? Oui, voilà, j'ai ça. Ah, il faut qu'il le prenne l'ishmi. Il faut que ce soit, il faut qu'il y croue l'ishmi. Il faut le prendre. Qu'est-ce que ça va ajouter? C'est déjà Hachem. Il ne peut rien ajouter. Maïnaf Kamina, qu'est-ce que ça change? Bemashé ikrou agabaïm gamkel l'shem Hachem. Arekvar nit kadesh bide baïlim. Ça a déjà tout ça que doucha dans la main du propriétaire. Au moment où le propriétaire s'est décidé à le donner, ça a acquis toute la kdusha que ça pouvait, toute la sainteté que ça pouvait acquérir.
Mais c'était connu de lui, oui.
Oui, peut-être, mais ça ne change rien.
Oui, ça ne change rien, mais ça manifeste de façon peut-être plus définitive. Et... Enfin, peut-être revenir de ce qu'il a décidé.
Mais c'est bizarre, parce que ceux qui prennent, ils donneraient, parce que c'est pas eux, ils passent pour prendre.
Oui, alors on demande de prendre l'ishmi, de la prise doit être l'ishmi. C'est-à-dire, ils ne doivent pas prendre pour eux, puis ensuite il l'amènera, bon, je prends, et puis après je l'amènerai chez Moshe Rabbeinu, ou je ne sais pas, où là on le déposera. Il doit dire, je prends au nom d'Hachem, quelque part. Je prélève au nom d'Hachem. Mais c'est déjà au nom d'Hachem. C'est déjà au nom d'Hachem quand le type il a décidé de le donner.
Ça c'est pas
quand eux ils prennent. Ceux qui prélèvent la Trouma, ils savent pas du coup où ça sera affecté. Eux ils sont seulement des collecteurs de Trouma. C'est tout.
Et mes parents, quand le premier donne, en fait, il donne quelque chose qui est déjà à Hachem.
Oui. Donc, qu'est-ce que je vais faire quand je donne? Tout ce que je peux faire, c'est dire, c'est déposé chez moi, ça appartient à Hachem, mais je veux le dédier à Hachem. Voilà. Alors, je lui donne cette kedusha, ça veut dire que j'abandonne ma propriété, entre guillemets, et donc je ne l'utilise plus pour moi, pour rien du tout, il est en réserve. Et quand le collecteur va venir, je lui donnerai. Mais j'ai pas besoin qu'il... Le Nessim dit, il n'a pas besoin de prélever au nom d'Hachem, c'est déjà Hachem. L'idée de prélever au nom d'Hachem, c'est de le faire entrer dans la propriété de Hekdesh, la propriété d'Hachem, disons. Mais c'est déjà fait. La Kedusha est déjà là. Donc, sans ça... Donc, non. Il dit, Achen belozé y efchar lomar, de lo neemra mitrila mitzvata mishkan, ela lide nedavot. Vim lo ayu menadvin, lo naase a mishkan. Il y a un problème. On veut que le mishkan soit construit avec ce que les gens vont donner. Mais on veut que les gens donnent volontairement, on ne veut pas prélever, ce n'est pas un impôt, on ne veut pas leur prendre à leur corps défendant, on veut qu'ils donnent. Ça veut dire quoi? Hachem a décidé qu'il allait construire un Mishkan, que les Bnei Israël devaient construire un Mishkan. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si les Bnei Israël décident? Ben nous, on ne donne pas. Il n'y aurait pas de Mishkan. Parce que si tu dépends de la générosité publique, ben, et que tu dis que ça doit obligatoirement passer par la générosité publique, mais peut-être que la générosité publique ne sera pas au rendez-vous. Alors il n'y aurait pas de Mishkan. Mais dans le Kofin Zedze Livnot Beta Knesset, il y a une halakha que les gens peuvent s'obliger, les gens de communauté, ils peuvent s'obliger les uns et les autres à participer à l'édification d'une synagogue, par exemple. De la plus forte raison, le Mishkan, qui est une mitzvah assez. Il sera positif. Et le Beit Din, il a l'obligation d'obliger les gens à donner, d'accomplir les mitzvot assez, donc de donner en l'occurrence. Et le Rambam, dans les Hilchot Beit Aprira, il écrit « Akol chayavin livnot » « Tous sont astreints à construire le Beit Aprira, le kemigdash » un Midbar. Donc, on a l'obligation de construire le Betamigdash comme le Migdash du Midbar. Donc on voit que c'était une obligation d'après Rambam. Et pas une Nedava, et pas dépendant de la générosité. Bon, mais les gens, ils peuvent très bien dire, mais moi, quel que soit le montant, je ne veux pas donner. Si c'est même la première prouta, le premier centime, il doit être aussi l'ishma. Pas l'ishma seulement, mais il doit être aussi nidava, ça doit être aussi une volonté de donner, générosité. Donc on est obligé de dire que quand on dit veikrouli, on est obligé de dire que c'est que les évaluateurs et les collecteurs, ils doivent venir prendre chez chacun ce qui doit être pris. Et à ce moment-là, on comprend bien l'ishmi, ça doit être pris, l'ishmi, parce que eux, ils vont prendre, en fonction de la kdusha du Mishkan. Ça veut dire, on va dire, toi tu dois donner ça parce que dans le Mishkan, on aura besoin de 100 grammes d'or, et c'est de tes 100 grammes d'or qu'on a besoin parce que on sait combien il y a d'or dans le clan d'Israël, on a besoin de tes 100 grammes en question. Ça veut dire qu'eux, ils vont prendre, ils vont dire, tu dois donner, C'est-à-dire, il faut que tu donnes, on veut que tu donnes généreusement, mais d'un autre côté, on va t'expliquer que tu dois donner. Tu dois donner tes 100 grammes d'or, parce qu'on a évalué que le Mishkan, il avait besoin de ça, et on a aussi évalué que c'était chez toi qu'il fallait prendre ces 100 grammes-là, et ce qu'on prendra 100 grammes chez le voisin, etc. aussi. Donc, « Kol ish asher yidveno libo, im ye nimtsa nidvot blik, gam ken tikru et trumati. » Ça veut dire, si vous pouvez prendre, lui comme ça le Nessie, si vous pouvez prendre sans obliger les gens, c'est bien, prenez sans obliger. Mais il faut savoir, on est obligé de donner. Et maintenant, si on n'oblige pas les gens à donner, mais que les gens viennent volontairement en donner, prenez aussi. Parce que du coup, si on dit qu'on est obligé de donner, alors il y a une dimension d'obéissance. Et quand quelqu'un vient, il donne volontairement, il manque la dimension d'obéissance à ce qu'il a fait. Alors, il faut un chidouche pour dire de chacun qui voudra donner, comme si quelqu'un pouvait se dire, bah tiens, on va, le Betamigdash qui va, enfin le Mishkan qui va être construit, il a été construit parce que j'ai bien voulu. Alors, peut-être que ça, c'est pas évident. Et donc, il faut une contrainte, et puis après, il faut dire le chidouche que si quelqu'un veut donner 100, effectivement, sans contrainte, ben on accepte aussi. Ça ne va pas du tout dans le sens qu'on croyait, quoi. Ça, c'est le Netsif.
Ils vont même donner plus, je crois. Non?
Pardon? Ils vont donner, il y en aura trop.
Oui. Il y en aura trop. Et...
il faudra me dire d'abord stop, parce qu'il y a déjà trop. Tikru et Trumati. Alors, il y a un enseignement qui dit que il y a trois Trumot ici. Bon, c'est marqué trois fois le mot Trumot, Trumati, c'est marqué trois fois. Achat Trumat Beka la Gulgolet. Une qui sera un prélèvement de 1 béka, c'est une quantité, par tête de pipe. Ou pas de pipe, par tête, pardon. Chez Naasou Mehem à Adanim. Avec ça, on va fabriquer les Adanim, c'est les socles. C'est-à-dire que quand on construira le Mishkan, il va y avoir donc des poutres. Et les poutres, il faudra qu'elles aient des socles, parce que sinon ça ne tiendra pas. Parce que c'est. On le plante, il n'est pas planté dans le sol, puisqu'il est fait pour être mobile. Ve'achat trumat ha-mizbeach, aussi beka la gulgolet, et aussi une truma pour le mizbeach, pour l'autel, aussi par tête. La coupote, liknot mehem korbanot tzibou. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce qu'il donne là? C'est qu'on va mettre ça dans les caisses. Et on va acheter avec cet argent-là, on va acheter ce qu'on appelle korbanot tzibour. Il y a deux sortes de korbanot, n'est-ce pas? Enfin, en gros. Il y a les korbanot qu'un individu sacrifice, qu'un individu apporte. Porte parce qu'il veut bien, parce qu'il en a envie, ou bien il apporte parce qu'il est contraint, parce qu'il a fait une faute, ou bien parce que la halakha le lui prescrit d'une manière ou d'une autre. Et puis, il y a aussi les korbanot que le tzibour doit apporter, c'est-à-dire la collectivité. Par exemple, le korban tamid. Le korban tamid qu'on apporte le matin et l'après-midi, tous les jours, en ouverture du Beit HaMikdash et en fermeture, ça s'appelle un korban tzibour. Les korbanot qu'on apporte Yom Tov au nom du tzibour, ou Shabbat, etc., ça s'appelle korban tzibour. Alors, le tzibour, c'est tout le peuple. Mais c'est pas tout le peuple comme des associés, comme s'ils étaient tous associés. C'est tout le monde d'hommes, ça va dans une caisse, et ça devient anonyme. C'est-à-dire, c'est comme ça perd son identité. Donc, ça, c'est complètement dissous. Voilà, il y a de l'argent qui appartient à la collectivité, mais pas à l'association des membres du peuple juif, quoi. Ça, ça s'appelle Korban Shel Shutfim. C'est le Korban d'associés. Ça n'a pas du tout le même statut. Le Korban Tzibur, c'est comme l'entité Israël apporte un Korban. D'où elle a pris l'argent pour apporter le Korban? Les gens donnent, ils doivent donner. C'est une des troumotes. Ils vont donner et ça va se dé... ça va perdre son identité, ça va se dépersonnaliser et ça fait voilà, ça fait de l'argent. L'argent du Tzibou. Donc ça, c'est une des destinations de la Trouma. Ve'achat Troumat HaMishkan Nidvat Kol Echad Ve'echad. L'autre, c'est une Nedava pour le Mishkan. Ça, c'est déjà la générosité de tout un chacun. On ne prescrit pas combien. Dans les deux autres, c'est un Beka. Bon, c'est un lingot. Et là, c'est Kol Echad Ve'echad. Et donc, ça va servir à... tous ces matériaux qui sont donnés ici vont servir soit pour construire, soit pour fabriquer les vêtements des Kohanim, bon, aussi, qui sont aussi fondamentaux, qui font aussi partie de fonctionnement du Mishkan.
Mais dans le troisième, quand on dit Mishkan, ça comprend tout.
Troumat HaMishkan. C'est la Trouma qui est nécessaire pour le Mishkan, mais pas pour les Korbanot, ni pour les Adanim, pour tout le reste. Zav v'chesef u'nechoshet, kulam ba'u benedava. Tout ça, ça doit venir de nedava, de générosité, de don. Ish enadvo libo. Ce que les gens ont envie de donner. Chutz, à l'exception, mina kesef, Sheba b'shave martita shekel kol echad. Sauf l'argent lui-même, celui-là on va donner un demi, l'équivalent d'un demi shekel. Chacun va donner ça.
Par
homme. Oui, oui. Velo matzinu b'chol melechet ha-mishkan. Dans tout le travail du Mishkan. Non, ça oui, plus tard. Mais ça, c'est le poids seulement. Merci d'un shekel. C'est la valeur d'un demi shekel. De chavé, merci d'un shekel. Donc, on verra que Bechol Melechet HaMishkan, durant toute la fabrication du Mishkan, on ne trouvera jamais chez Utsrach Sham Kesef Yoter. On n'a jamais eu besoin de plus que ça de Kesef. Bien que partie de la shekel, c'est pas beaucoup, mais on n'a jamais besoin de plus. Mais Kesef, Kudea Eda, etc., c'est Bekal Agulgolet, Shara Kesef, Avad Sham Benedava, Asua Leklé Sharet. Le reste de l'argent, on en a fait des ustensiles de service au Mishkan. Trelet, donc c'est ce fameux bleu, ou azur, je ne sais pas. Cette semer, c'est de la laine. Savoua, teinte, bedam chalazon. Avec le sang d'un chalazon, c'est une bestiole. Utsvao, et sa couleur, c'est yarok. Alors yarok, c'est jaune-vert. Si la couleur, c'est yarok. Très laid, domé la yam. Alors, si c'est yarok, c'est vert, ça va. Parce qu'on a. Il y a la mer, à certains endroits, elle est verte, on peut dire. Mais si c'est jaune, si yarok, ça veut dire un peu jaune, c'est un peu compliqué. La mer jaune, oui, ça existe aussi, mais surtout le fleuve jaune, je ne sais pas, mais je ne sais pas du tout. Bon, ça doit être spécialement boueux ou je ne sais pas quoi. En tout cas, quand on va dire que ça ressemble au ciel, etc., pour dire que le trelet, c'est la dérive, on ne voit pas très bien que si on parle du yarok, c'est un peu compliqué. Ve argaman, l'argaman c'est tsemer tsavua mimin tseva sheshmo argaman. C'est de la laine éteinte avec une teinture qui s'appelle argaman. Donc c'est du rouge. Veshesh, shesh c'est pishtan. Shesh c'est du lin. C'est nutzot chelizim. C'est des poils de chèvre. C'est le cachemire, non? C'est pas ça? Poils de chèvre, c'est le cachemire? Je crois, non? Le car, pour cette raison, Onkel a traduit ou meize abba mina izim, velo izim atzman. C'est quelque chose qui vient des izim, des chèvres. Poil de chèvre. Meodamim tsvuot ayu adom lachar avodan. On les c'était teint en rouge après qu'on les ait tannés, qu'on les ait travaillés. Tachashim min chaya velo aita ela lesha'a. C'est un animal qui n'a existé que momentanément. Ve'arbe gavanim ayu lo. Bon, alors, il c'était aussi comme peut-être un caméléon, ou bien il y avait beaucoup de couleurs en permanence. Le kach metagem sasgona, c'est ça qu'on le traduit quasiment, sasgona, chez sas, ou mitpaer, begavanim shelo. Alors, c'est un pan, je sais pas, qui se réjouit, qui s'enorgueillit en quelque sorte de toutes les couleurs dont il est paré. Atsechitim, ils avaient des bois d'acacia. Umeaina yulaem, bamidbar, dans le désert, des bois d'acacia, comment, d'où ils avaient ça. Alors on dit, Rabinu, le Tanhuma, il dit, Yaakov Avinu, tsafa beruach hakodesh, Yaakov Avinu, il a vu, il a été inspiré, il a vu chez Atidin Israël livnot mishkan bamidbar. Il a vu que les Bnei Israël allaient construire un mishkan dans le désert. Veli Arazim le Mitzrayim. Il a transporté des Arazim, alors je ne sais pas, c'est des Arazim, c'est des cèdres. Et l'acacia, je ne sais pas si c'est une sorte de cèdre. Je ne sais pas. Ve Natam, il les a plantés là-bas. Ve Tsiva le Banav, l'Itlam Imaem, que chez Yitzu Mitzrayim. Il a ordonné à ses enfants que quand les Bnei Israël sortiraient d'Égypte, il fallait les prendre avec. Donc quand ils sont sortis avec des bois d'acacia. Je crois qu'on est obligé de dire quelque chose qui ressemble un peu à ce que dit le Netziv, qu'il y avait des... A priori, on voulait la générosité, s'il n'y avait pas, on prenait.
Il n'y a pas une obligation d'être généreux.
C'est non, tu n'as pas une obligation d'être généreux, mais si tu n'es pas généreux, on te prendra sans générosité. Pardon ? Oui, ben la tzedaka, on est même ashken, tu veux dire, oui, on peut, oui. Donc voilà, ils avaient ça. Shemen la maor, shemen zait, la alot ner tamid. C'est l'huile d'olive qui sert à faire monter la lumière dans la menorah. Les samim, les parfums, shemen amishra, shenase limshoach kli amishkan, vehamshachan le kadsho, veutzuchulo besamim, kemo shem faresh vekitisa. Donc, on avait besoin pour l'onction des kelim, des ustensiles, et il fallait là aussi des besamim, comme on verra plus bas dans le texte. Donc, il y avait quand on avait le Beth Amikdash en fonction, le Mishkan en fonction, on a oint tous les kelim. Il y a eu une onction des kelim. C'est seulement à l'inauguration, seulement les premiers kelim. Après, on a dit que la mise en service, c'était leur inauguration. C'est-à-dire là, il fallait faire un geste de mise en service, inauguration des nouveaux kélim. Ça, on l'a fait par l'onction. Et après, quand on a remplacé, les kélim sont abîmés, évidemment, on les a remplacés, il n'y avait plus d'onction. On disait que leur mise en service, c'est leur chinour, c'est leur Hanouka, c'est l'inauguration. Mais au départ, on a eu besoin. Vélictor et Assamim, Chayou, Maktirin, Bechol, Erev ou Boker, soir et matin, on faisait brûler des parfums. C'est marqué la parcha suivante, tu le savais. Et Ktoret, le mot Ktoret, dit-il, c'est Ha'alat. Ha'alat, pardon, c'est l'élévation. Kitor vetamot hashem. Ça veut dire qu'effectivement, il y a Ktoret, ça fait monter ce nuage de qui vient d'odorant, en fait. Avne Shoham, il y en avait deux, Shtaim, Utsrechu Sham, le Tzorech Haefod, Amour Be Vatat et Tzave. Dans la parasha suivante, on verra qu'on avait besoin d'Avne Shoham pour tenir les vêtements. Meleim, enfin, en fait, c'est pas Meleim, mais c'est Avne Milouim. Miloui, Malay, Milouim, ça veut dire plein. Donc ça veut dire que Al-Shem She'osin Lahem Bezahav Moshav, Kemin Gouma, Inotima Even Sham le Malota Gouma, Askruyim Avne Milouim, Makoma Moshav Karoui Mish Betzot. Pourquoi ça s'appelle Avne Milouim, des pierres de remplissage? Parce qu'on faisait c'est un terme technique, comme dans une bague. On va sertir, mais comment s'appelle la pince, le métal qui tient? On faisait en or.
Un chaton.
Alors, on fabriquait un chaton, d'accord, et puis on mettait la en or, et donc il y avait une place qui était vide dans le chaton, et on sertissait la pierre de ce chaton. C'est pour ça qu'elle s'appelle pierre de remplissage. Elle servait à remplir la place dans laquelle on le posait, ça s'appelle des mishbetzot. L'Ephod et la Choshen, Avne Shoham, l'Ephod. L'Avne Shoham, on en avait besoin pour le Ephod, pour ce vêtement du Kohen Gadol. V'Avne Amilouim, la Choshen. C'est pour le Choshen, c'était dans là où il y avait les fameuses pierres correspondant à chacune des tribus sur le pectoral d'Aaron. V'Choshen V'Ephod, V'Fourashim, V'Batat et Savé, V'Mine Tarshat. On en parle dans Atat Tisavé, dans la parasha suivante, et ce sont des tarchitim, c'est comme des formes de bijoux, d'embellissement que porte le Kohen. Vasuli Migdash, Asuli Shmi, faites pour mon nom, Bait, Bait Kedusha, une maison de sainteté. Que chol asher ani moreotra, comme moreotra, exactement comme je te le montre. Et la kan et tavnit amishkan, je te montre là maintenant ici le plan, la figure de la forme du mishkan. Amikra azé mechubar la mikra shel mala. Ce verset-là, il faut le lire en même temps que le verset d'au-dessus. « Vasulim Migdash que Cholacherani Mareotra. Vous me ferez un Migdash comme je te montre à toi. Je te le montre à Moshe Rabbeinu. Vechenta Asu, c'est comme ça que vous ferez le Doros. Dans toutes les générations, vous ferez comme ça. Im Yabed Echad Minakelim. Si jamais on venait à perdre un des ustensiles, oh, que chez Asuli Kli Betolamim. Betolamim, ou quand vous me ferez les ustensiles pour le Betamigdash, Betolamim c'est le Betamigdash, que Gon Shulchanot, Menorot, Kiorot, ou Chonot, Shiasa, Shlomo, que Tavnit Elu Tasotam, comme Shlomo a fait quand il a construit le premier Betamigdash, vous les ferez sur le modèle de ce que je vous dis ici, concernant la construction des kelim, des ustensiles pour le Mishkan. Et Rashi dit, mais imloya mikra mechubar le mala, si je ne lisais pas ce verset-là attaché au verset précédent, et maintenant donc, isloya lo lichtov asu, et la kentasu. Si ce n'était pas attaché, on va dire kentasu, voilà ce que vous ferez. Et ça ne parlerait que du Mishkan et pas de ce que vous allez faire dans les générations à venir, Shlomo HaMelech, quand il construira le Bet HaMikdash, etc. Tandis que ça annonce déjà hein, le Bet HaMikdash qui devra être construit sur le modèle en question. On verra après que c'est construit sur le modèle, mais un peu autrement. Parce qu'à chaque fois, Shlomo HaMelech, il va construire le Bet HaMikdash autrement, mais parce qu'il va avoir une révélation qui va lui dire comment il doit faire, comment il doit modifier le plan du Mishkan. Et le deuxième Bet HaMikdash, il ne sera pas non plus sur le modèle du premier exactement, aussi parce que ils vont recevoir une information. Et le troisième, qui sera construit, il ne sera pas non plus le deuxième, on a une vision qui nous dit comment ce sera différent, en quelque sorte. Donc c'est à la fois Kenta Asu, vous ferez ça, mais il y aura un changement quand même. C'est-à-dire, pourquoi ça s'appelle Ken, comme si la base sera ça, mais il y aura quand même des changements. Et ensuite, tu me fabriqueras le Aaron. Alors, le Aaron, il sera en bois de chitim, de nouveau, en bois d'acacia. Amataim vachetzi orko, 2,5 amot de longueur. Une ama, disons, on va le prendre à 50 cm pour faciliter les choses. Donc, ça va faire 2,5 amot, ça fait combien? 2 amot, ça fait 1 mètre. Et chatzi ama, c'est, disons, 25 cm. Donc, ça va nous faire 1,25 m. Ve'ama vachetzi et une ama et demi. Ve'ama vachetzi komato. Et la largeur et la hauteur seront toutes les deux de une ama et demi, c'est-à-dire de 50 plus 25, de 75 cm. Donc tout le haron, c'est pas bien grand, n'est-ce pas? C'est 1,25 m par 75 et 75. Donc, c'est pas. On n'est pas dans des gros, un gros mobilier, c'est petit. Vetsipita, donc vous allez faire cette boîte en bois de chitim, en acacia donc. Et puis, Vetsipita auto, et tu le recouvriras, Zahav Taor, d'or pur, Mibait ou Michutz. À l'intérieur et à l'extérieur. Donc le haron, il a 3 épaisseurs, or, bois, or. Depuis l'intérieur aussi, or, bois, or. Vasita alav, zer zahav, tu feras au-dessus un tout petit rebord en or, une espèce de petite couronne en or sur le haron. Décoratif. Et tu fondras, tu feras fondre, Yatsak Talo, tu fondera pour lui, pour le Aaron, Arba Tabeot Zahav, 4 anneaux d'argent, Venatata al-Arba Pamotav, Ushte Tabaot al-Tsalo Aechat, Ushte Tabaot al-Tsalo Hacheni, et on va mettre ces anneaux de chaque côté. Et Vasita Bade Atsechitim. Et tu feras des bâtons, toujours d'acacia, et Tsipita Otam Zahav, que tu recouvriras d'or. Veveta et Abadim Batabaot, Al-Tsalot Aaron. Tu feras glisser les bâtons dans les anneaux sur les côtés du Aaron. La sept est à Aaron Bahem, pour porter le Aaron grâce à ces barres qu'on a, d'accord, qui sont dans les anneaux. C'est un moyen, les barres elles sont sur les épaules, et on va pouvoir porter comme ça le Aaron. Mais a priori, si ces barres sont pour porter, quand le Mishkan est arrêté, alors on devrait poser le Aaron, on enlève a priori les barres de transport, on les refera, quand on va transporter, on les refera glisser. Mais ces barres, ça sera vrai pour deux autres, on fera le même système pour le Shulchan, pour d'autres Kelim, mais pour d'autres mobiliers, pièces du mobilier, mais pour le Aaron, Aaron Iyua Badim, Loyasu Mimenu, on n'enlèvera pas les Badim. C'est-à-dire que même en situation de camp, où on campe, le Bnei Israël campe et le Mishkan est monté, on n'est pas en train de transporter, il y aura quand même les barres en permanence dedans. Les barres, elles doivent rester dedans. C'est la singularité du Aaron que les barres restent à l'intérieur. Et Venatata el Aaron, et tu mettras dans le Aaron et ta Edut, Asher et Enelecha, le témoignage que je te donnerai. Rashi dit, Vasu Aaron, que min Aaronot Sheosim Blo Raglaim. Ces boîtes, ces armoires qu'on fait sans pied, Asuim Kimin Argaz, c'est comme des boîtes, chez Corinne, écrin. J'ai dit c'est un écrin. Yoshev Al-Shulav, mais c'est, il repose sur le bord, sur un des côtés de Aaron, parce qu'il n'y a pas de pied, donc il repose. À même le. Voilà, c'est comme ça. C'est le Aaron, posé comme ça. Il n'y a pas des pieds pour le tenir, comme d'autres systèmes. Il est posé tel quel. Alors, sur les bords, il va y avoir ici les anneaux. On va mettre les barres. Et les barres, évidemment, elles vont dépasser pour que les gens puissent se tenir devant, derrière le Aaron et mettre les barres sur leurs épaules et transporter ainsi. Le Aaron. Mibait ou Michutz et Tapeno, de l'extérieur et de l'intérieur et de l'extérieur, tu le recouvriras d'or. Shlosha Aaronot, Asa Betzalel, donc Betzalel qui est l'artisan de tout ça. C'est Betzalel, et il a fait trois boîtes, en quelque sorte. Deux d'or et une de bois. Alors, chacun avait des parois et des bords. Uptuchim Milmala, et les trois boîtes étaient ouvertes vers le haut. Natan Sheletz, Vetor Shel Zahav, Vetor Zahav, Vetor Sheletz. Donc, il a mis la boîte de bois dans la boîte d'or et la troisième boîte, et la deuxième boîte d'or dans la boîte de bois. Puis au-dessus, il a mis un couvercle d'or. Nimsa metsupe mi bait u mi chutz. Donc ça veut dire que le bois est recouvert de l'intérieur comme de l'extérieur avec de l'or. Et tu feras zer zahav kemin keter, comme une petite couronne. Kef lao saviv, tout autour du haron. Le mala misfato, sheasa haron achitzon gavoa min apnimi, ad she ala le moule ovi akaporet, ou le mala emeno, machu, kshe akaporet shochev al ovi aktalim, ole azer, pardon, le mala, mikol ovi akaporet, כל שהוא, והוא סימן לכתר תורה. Alors, le haron extérieur va le faire dépasser un peu pour mettre le couvercle et la petite couronne, elle sera par-dessus, et c'est ce qu'on appelle Keter Torah, la couronne de la Torah. Il y a un Keter Torah, Keter Keuna et Keter Malchut. Il y a la couronne de la Torah, le Keter, la couronne de la Keuna, des Kohanim, des prêtres, et la couronne royale. Ça, c'est le Keter de la Torah. La couronne de la Torah. Donc, tu mettras la... Donc, tu Viyatsakta, ça veut dire tu vas fondre. Marteler, fondre. Pas motav kutarumo zaviate, c'est les côtés. Les zavites, c'est les coins. Plutôt, c'est moi. Ou bien les aviota et la samouk la caporet, ayunetunim, shtaim mikan, shtaim le mikan. C'est-à-dire que les anneaux étaient au coin supérieur. De côté, proche du couvercle, et pas dessous, pas vers le bas, mais au contraire, les anneaux étaient en haut. Et alors, dans quel ordre, comment c'était placé? C'était placé de telle sorte que, vous voyez comment c'est, le Aaron, Orko shel Aaron, Mafsik ben Abadim, Amataim vachetsi, ben Bad le Bad. Entre une barre et l'autre, il y avait toute longueur toute la longueur du Aaron. Donc, le haron, il était, dans sa longueur, les anneaux, ils étaient sur ce côté-là, et là, donc, c'était ici, les barres étaient là, et donc, entre une barre et l'autre, il y avait toute la longueur du haron, c'est-à-dire, un mataim, en fait, si, 2,5 amot, c'est-à-dire, comme on avait dit, 1,25 m. Donc, on se serait attendu à ce qu'on mette les barres ici, mais non, elles sont là, tout en haut, ici d'un côté, tout en haut, sur la partie, pas sur la partie longue, sur la partie étroite. Et tu mettras la Edout. Alors Rashi dit, qu'est-ce que c'est la Edout? Témoignage. Ha Torah shehi la Edout beini ou benechem. La Torah qui est un témoignage entre moi, dit Hashem, et vous. Témoignage que quoi? She tziviti etchem mitzvot aktuvot ba. C'est un témoignage que je vous ai ordonné les mitzvot qui sont écrites dans la Torah. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire, ça? La Torah est un témoignage que je vous ai donné, effectivement, les mitzvot qui sont écrites dans la Torah.
Sont écrites jusqu'ici?
Hmm? Non, tout est écrit. Je vous ai donné des mitzvot, donc c'est un témoignage que les mitzvot qui sont inscrites dans la Torah, que vous allez mettre dans... Donc ça veut dire qu'on va mettre la Torah dans la boîte. D'accord ? La Torah. On va mettre aussi un Sefer Torah, parce que dans la Aaron, il y avait en plus des Luchot, il y avait un Sefer Torah. Donc, jusqu'à présent, on ne parle même pas d'y mettre les luchot. On ne parle pas d'y mettre les tables. Pour l'instant, on parle d'y mettre la Torah. La Torah, ce n'est pas les luchot. Sur les luchot, il n'y a pas marqué toutes les mitzvot. Donc ici, la Torah, elle serait un témoignage de... Comment ça fonctionne, ce témoignage? La Torah témoigne sur elle-même, quoi. Elle témoigne que Hachem nous a ordonné les mitzvot qui sont écrites dans la Torah. Comment c'est pas, quoi?
C'est marqué dans la Torah, ça, non?
Oui, si, c'est la Torah. Tu mettras la Edout.
Non.
Tu mettras le témoignage dans la...
Le fait que ce soit un témoignage. C'est un témoignage que quoi? Qu'il y a un...
Justement, c'est ça le problème.
Oui, ça,
comment il fonctionne, ce témoignage-là? La Torah est un témoignage qu'Hachem nous a donné des mitzvot, mais quelles mitzvot? Ben, celles qui sont écrites dans la Torah. Non, il ne dit pas ça, c'est ce qu'elles qui sont écrites dans la Torah.
Ça veut dire ça, c'est la fois que Moshe a enseigné au Béni Israël, on a vu à Chartassi. Donc le témoignage qui est écrit maintenant dans le texte qu'il va mettre dans la Rome.
Oui. Donc c'est-à-dire qu'on ne va pas se... Ça voudrait dire, dans toutes les générations, on ne va pas se contenter de la tradition orale, de la transmission orale de mitzvot qu'on a reçue, d'accord ? Elles vont être écrites dans la Torah, et du coup la Torah va fonctionner comme un témoignage de ces mitzvot qu'on a reçues, par ailleurs. Donc, écrire dans la Torah les mitzvot, ça sert à laisser une trace en témoignage de ce que Hachem... Alors, est-ce que comment ça témoigne qu'Hachem nous a ordonné ça? Comment il fonctionne, ce témoignage? C'est que la Torah raconte qu'Hachem nous l'a donné. La Torah va raconter à la fois les mitzvot, et elle va raconter que dans le texte, il est dit que c'est Hachem qui nous les a donnés. C'est marqué, comme on l'a dit la semaine dernière, ceux-là du Sinaï, ceux-là aussi sont été donnés au Sinaï. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que la Torah, ici, est un... C'est un récit, d'accord, qui raconte que les mitzvot qu'on a reçus et qui sont mises dans la Torah, ben, le récit raconte que c'est Hachem qui les a donnés. Donc c'est ça le témoignage.
Les témoins, c'est qui? C'est les Israël et Hachem?
Ah non, les
témoins.
Non, les témoins, c'est la Torah. On va mettre le Haïdout dans le témoignage dans l'Aaron. Le témoignage, c'est la Torah.
Non. Le témoignage, c'est la Torah, mais c'est pas un témoin.
C'est pas dit que c'est un témoin, c'est marqué un témoignage. C'est une Haïdout. C'est un témoin. Haïdout, c'est pas des témoins. Haïdout, c'est un témoignage.
C'est un témoignage parce que c'est dit.
Oui, parce que le récit du don de la Torah, le récit du don des mitzvot figure dans la Torah. Donc cette Torah, elle vient raconter, comme des témoins qui viennent raconter quelque chose. Leur édout, leur témoignage, c'est le récit qu'ils en font. Un témoignage, c'est un récit. Deux personnes viennent raconter... Voilà,
Là, c'est pour faire le témoignage, il faut la lire qu'ils étaient venus.
Non, il dit ce qui est marqué. Dans Rashi, c'est marqué témoignage que les mitzvot, Hachem nous les a donnés, c'est mitzvot qui sont écrites dans la Torah. Mais si la Torah n'était que la liste des mitzvot, elle témoignerait de rien du tout, parce qu'elle ne raconte rien s'il n'y a que la liste. Et comme la Torah raconte qu'Hachem nous a donné ces mitzvot, alors elle témoigne. Elle fonctionne comme témoignage. C'est ça un témoignage, c'est toujours un récit. Donc ici c'est un récit écrit de ce qu'Hachem nous a donné les mitzvot. Donc, c'est intéressant, c'est ça qu'on met d'abord dans le haron. Ça a l'air de vous... Ah, quoi?
Ça a l'air de vous imaginer. Ça marche. Ça marche que dans le cas... Dans le cas où
ce
sont en fait les
bénis
Israël qui sont les témoins.
Non.
Mais ça marche pas.
Mais si, c'est un témoignage écrit. C'est un témoignage écrit. Vous portez un témoignage écrit. Vous avez raconté, témoigné par écrit que Hachem a donné. Alors vous allez écrire la chose. Donc maintenant, c'est quand le récit écrit, c'est ce que vous avez dit. Oui, ça a été écrit par Moshe Rabbeinu, peu importe. C'est quand, une fois que vous l'avez écrit, votre truc, on se fiche pas mal de savoir qui l'a écrit.
Je pense que ça ne suffit. Je pense que ça ne suffit pas que ce soit Moshe Rabbeinu qui l'a écrit.
Mais s'il a écrit sur l'ordre d'Hachem.
Il faut que derrière, il y ait eu
qui?
Ces 600 000 témoins.
Non.
Ah, ça ne marche pas.
Non, ça, la Torah, elle te raconte qu'il y avait 600 000 personnes qui ont entendu ça, mais... Le témoignage que Hachem l'a donné, c'est ça qu'on veut, pas qu'il y avait 600 000 personnes qui l'ont reçu, mais qu'Hachem l'a donné au Béné Israël. Ils auraient été 40, c'est la même chose.
Moi, ce que je comprends pas, c'est comment Hachem a besoin de tout ça.
Lui, il n'a rien besoin de rien du tout.
Non, c'est pas. Non, d'accord.
C'est pour toi. C'est ta faute, c'est pour toi.
Bon, alors pourquoi c'est pour moi?
Parce qu'Hachem veut bien te le faire.
Un sacré truc, là. Ça veut dire qu'on n'a pas fini. Que l'or soit comme ça, qu'il y ait des boucles, qu'il y ait des trucs. C'est très précis, c'est très long, c'est toute une affaire. Quoi. C'est vraiment tout un.
Ah, au-delà du témoignage, là. C'est au-delà.
Ah, oui, non, moi, j'attendais pas. J'avais cette question depuis le début, mais maintenant qu'on a fini Richon, ça veut dire qu'on s'engage dans tout un truc, là, parce que l'Imina, Ben Nadava, et machin, et des Serza.
Pourquoi autant de détails? Pourquoi autant de...
Voilà déjà la question.
Pourquoi c'est si, si raffiné, aussi précis, aussi...
Et tout ça pour moi. Enfin, pour tout le monde, mais aussi pour moi.
Tu veux bien vouloir partager?
Ah, c'est bien passé, ça.
Qu'est-ce que c'est le Mishkan? C'est un lieu de résidence pour Hachem. C'est impossible. Ça n'a pas de sens. Comment Hachem, qu'est-ce que ça veut dire? Les hommes vont construire une résidence pour Hachem? Parce que Moshe Rabbeinu a demandé à Hachem, il a dit, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent pas te contenir, et tu veux que je te construise une résidence? Hachem lui a dit, Ata besammanecha, toi tu fais avec tes petits trucs là, tes bouts de bois et tes tentures et tes teintures, etc. Et moi, je me débrouille pour résider là-dedans. C'est mon problème, c'est pas le tien. Toi, tu fais ce que je t'ai dit de faire, et quand tu as la possibilité que ça puisse me contenir, c'est moi, je me débrouille pour résider là-dedans.
C'est Hachem qui donne tous ces détails.
Pardon?
C'est Hachem qui donne tous ces détails.
Oui, il dit, voilà ce que je veux que tu fasses, ça, c'est les conditions. Alors maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que tout ce qui concerne le Mishkan et toute la Avoda, tous les Korbanot, etc., en réalité, c'est difficile d'accepter ça. C'est difficile parce que on fait des actes matériels, etc., on fait comme si on pouvait donner quelque chose à Hachem, alors qu'on ne peut rien lui donner, on fait les choses, donc on va faire la shrita d'un animal, et puis après, on va le dépecer, on va faire il y a la boucherie, il y a tout, quoi, des choses compliquées. Alors, ce qui va venir plus loin, en fait, c'est pas vrai que ça vient pas plus loin, on l'a vu déjà à la fin de Parshat Yitro. C'est marqué à la fin de Parshat Yitro que les Kruvim, les chérubins que je te donne l'ordre de construire, de faire, qui vont être justement sur ce caporette là, sur ce couvercle du Aaron, qui seront même pris dans la masse, ces Kruvim là, si tu les fais en argent au lieu de les faire en or, ou si tu en fais 4 au lieu d'en faire 2, ou si tu vas enchâsser dans les Kruvim le plus beau diamant du monde, c'est Avodah Zara, c'est idolâtrie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le système du Mishkan, du Korbanot, etc., c'est limite. On joue avec le feu. Et par conséquent, tout est archi-prescrit. Tu fais ça exactement comme ça, tu obéis à Hachem. Dès que tu fais un petit peu différemment, tu es dans un Avodah Zara. Ça veut dire une Avodah Zara, c'est-à-dire un service qui est étranger, n'a pas été prescrit. Et par conséquent, tout le détail, c'est que ça ne laisse aucune latitude. En nous disant exactement tout ce qu'il faut faire, exactement comment il faut le faire, ça ne nous laisse aucune latitude. Ça veut dire qu'il n'y a rien dans ce Mishkan, puis ensuite dans les korbanot qu'on va faire, sauf peut-être de temps en temps des choses qui sont elles aussi très circonscrites, il n'y a aucune initiative possible. Dans toute la Torah, tu peux prendre des initiatives. D'accord ? Tu peux embellir, tu peux augmenter, dans toute la Torah, mais pas dans ce domaine-là. Dans ce domaine-là, c'est comme si on a l'impression, je ne sais pas comment le dire en français, mais j'ai l'impression que, ce n'est pas un problème de langue, mais c'est comment le dire en mots, qu'il y a une espèce de concession. Et donc la concession, c'est, ok, je vais te concéder tout ça, mais on est limite avec ça, et donc tu fais exactement ce que je t'ai dit, et rien d'autre. C'est une concession. Pardon ? Oui, c'est une concession parce que les Bnei Israël ont besoin de quelque chose. La preuve, c'est qu'ils se sont fait un guel. Comme ils se sont fait un guel, on a compris qu'ils avaient besoin de quelque chose. Mais le guel, ce n'était pas initialement Avodah Zara, mais ça l'est devenu. Et il faut faire attention que le temple, le Mishkan, il peut devenir un temple. Un temple.
Le Gaza,
au départ, c'était pas... Non, au début, ils ont voulu remplacer Moshe Rabbeinu. Seulement, ils ne savaient pas comment on honore ce machin. Il fallait lui donner du poids pour qu'il puisse représenter ce qui nous a sorti d'Égypte. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut faire? Alors, le Erev Rav, les gens étaient là-bas, ils ont dit, nous on sait. Les Égyptiens, ils ont dit, nous on sait. Mais eux, ce qu'ils savaient, c'était faire Avodah Zara. Ils ne savaient pas honorer sans faire Avodah Zara. Ils n'ont pas compris qu'il y avait un problème. Ils se sont dit, nous on sait comment on honore un veau. Alors il y avait un culte, ils ont copié le culte qu'ils connaissaient, et les Israël sont tombés dans le piège, et c'est devenu Avodah Zara. De ce point de vue-là. Mais initialement, ce n'était pas Avodah Zara.
En fait, il ne fallait pas qu'il y ait de vide. Mais enfin, ce n'est pas seulement de vide de mots.
Pardon, c'est...
Il ne fallait pas qu'il y ait de vide de mots. Enfin, le vide, plus il y a, oui, des mots, plus il y a...
C'est ça, comme il y a, c'est extrêmement dense, et il faut que la densité soit telle que on puisse rien mettre de... Je te dis, les anneaux, à la limite, voilà, c'est... On te dit la matière, ça doit être de l'acacia, si tu prends autre chose, ça ne marchera pas.
On ne sait pas pourquoi.
Non, mais parce que ça ne marchera pas parce que c'est pas Ratzon Hashem. Oui, bon, les kabbalistes, ils vont t'expliquer pourquoi il faut de l'acacia plutôt qu'autre chose. Mais on va t'expliquer pourquoi l'acacia, parce que, justement parce que c'est chargé de... Avec, tu amènes quelque chose dans cette affaire-là. C'est Yaakov Avinu qui a compris qu'il fallait ça. Donc, quelque part, ça fait le lien avec les Avot, les Hatzitzitim. Donc, ça nous rattache aux Avot, qui sont les inventeurs d'un détachement de la Avodah Zara. C'est eux qui ont inventé de se couper de la voie de Sarah. C'est Abraham Avinu qui a inventé ça. Du coup, de ce fait, on comprend bien qu'il y a toutes sortes de choses qui sont là justement pour nous empêcher de dévier.
Parce que ça vient tout de suite après le mot d'or.
Non, pas parce que... Oui, si vous voulez, parce que le mot d'or nous a montré que les Israélites avaient besoin de quelque chose.
Ouais, c'est ça.
Cette abstraction avec laquelle ils vivaient jusque-là, grâce à Moshe Rabbeinu, on a très bien vu qu'ils n'en étaient pas capables, c'est trop difficile.
Donc l'idée, c'est quoi ? C'est qu'on a besoin d'une Torah, qu'on sait qu'on a besoin d'une présence.
Ça se présente, c'est moi qui dis concession, je sais.
Oui,
ça a des raisons d'être aussi. Mais pour expliquer, donner une réponse à ta question, moi je me représente comme ça. Je pense que c'est une concession, et étant donné que la concession, elle peut être seulement le fait que Hachem ait donné le Mishkan maintenant. Parce que le Mishkan, il devait être, mais probablement à la fin des temps. Parce qu'à ce moment-là, il y aura le troisième Betamigdash, si tu veux. Oui. Pourquoi il vient, pourquoi le troisième Betamigdash? Puisqu'il viendra seulement quand on aura fait tout ce qu'il faut, il ne sert plus à rien. Mais justement, le Mikdash, la réserve Hachem, n'est pas fonctionnel. Ça ne sert à rien. Moi, j'appelle ça la cerise sur le gâteau. Quand vous aurez bien fait les choses, alors je publierai que je réside parmi vous. Comment ? Parce que je réside dans le cœur de chacun. Alors on va faire un binyan et on montrera que Hachem réside là-dedans.
Si je réside dans le cœur de chacun,
on n'a plus besoin. Ce n'est pas fonctionnel.
Mais
Hachem a accepté en quelque sorte de nous le donner pour qu'il soit fonctionnel avant terme en quelque sorte, avant le terme, pour nous aider. Il a, au lieu de qu'il soit inscrit sur le gâteau, on va l'utiliser.
Mais on dit aussi que l'impatience, c'est de la bonne Hazara qui a une, et donc peut-être que c'est pour calmer l'impatience.
Oui, c'est... Quand on dit que c'est la Avodah Zarah, c'est parce que qu'est-ce qui a fait la Avodah Zarah? C'est leur impatience.
Ouais. Mais est-ce qu'il y aurait eu un premier des derniers Mikdash qui n'avait pas eu.
Non, peut-être pas. Peut-être qu'il n'y aurait eu que le dernier.
Oui, donc ça n'aurait pas été le troisième, le premier.
Oui, mais ça n'a pas d'importance. Il aurait été là-bas, après qu'une fois qu'il y a eu un premier, alors il y a un premier et un dernier. Il y a pas dans les promesses, on ne parle que de Rishon et d'Aharon, on ne parle pas de deuxième et troisième. Parce que le deuxième, c'est une doublure du premier. C'est pas l'équipe.
Le troisième, ça aurait été juste pour nous montrer vous avez réussi, quoi.
Quelque part, c'est comme récompense, on publie que Hachem réside dans le Klal Israël.
On n'y fait rien. On le construit, on n'y va pas.
Même si on y fait quelque chose, peu importe, mais c'est pas nécessaire. Peut-être, je sais pas ce qu'on ferait, peut-être... On peut imaginer qu'on fasse un korban ou pas, je ne sais pas, peu importe. Mais ça aurait pu être, mais ce n'est pas comme ça, aujourd'hui ce n'est pas comme ça. Parce qu'aujourd'hui on a passé par le vaudor est passé par là, et donc on a pris un autre chemin. Et le chemin en question, pour qu'on puisse circuler le long de ce chemin, Hachem a dû nous faire la courte échelle en quelque sorte, en nous donnant le Mishkan ou Bet HaMikdash avant terme, pour nous aider. Parce qu'on... Mais il est là, vous avez vu, c'est marqué, ils me construiront un Mikdash, le Shachanti Betocham, je résiderai parmi eux. Si c'est pour dire que comme le Mishkan sera au milieu du Klal Israël, c'est trivial qu'il va résider. Mais on va dire, le Shachanti Betocham dans le cœur de chacun.
Aussi.
Pas aussi. C'est... Moi, il ne dit pas du tout qu'il va résider aussi.
Non.
Il dit, je résiderai dans le cœur de chacun. Et du coup, c'est comme si le Mishkan servait de pense-bête. N'oublie pas de faire résider Hachem dans ton cœur.
C'est pas que ça, il s'y passe quand même quelque chose là-bas.
Quoi ?
C'est pas que un pense-bête, il s'y passe quelque chose.
Mais il s'y passe, tout ce qui s'y passe, c'est pour que ça réside, que ça soit dans ton cœur. Tout est là-bas. Pourquoi on apporte des corbanotes ? Pour s'approcher d'Hachem. Ou s'approcher d'Hachem, pour qu'il soit vraiment, il est au plus proche de moi.
Le but, c'est de chercher un petit peu ton part.
C'est un but. Et tout ce qui va s'y faire va servir à ça. Lui, le Mishkan, tout ça, il sert Bon, c'est peut-être pas respectueux de dire un pense-bête, mais c'est quelque chose qui est là pour nous rappeler et pour nous aider à ce qui réside dans nos cœurs. Quand tu es éloigné, au lieu de faire un travail uniquement dans ta tête, etc., alors je te propose de apporter un corban, et voilà, un corban de rapprochement, shlamim.
Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec cela, si on peut faire un parallèle?
Alors, nous, on peut étudier ça, sinon peut-être pas, mais l'étude. L'étude du corban.
L'étude, c'est quand même quelque chose d'intellectuel. On n'a pas la matière.
Ah, de matière, il n'y a pas, non. Sur la matière, on ne fait pas.
Et je ne peux pas dire qu'ici, il y a peut-être certains aspects, je dirais...
Non, si vous faites...
Les bouchats qu'on trouve dans les synagogues, le rideau, le
sifflet... Non, ça c'est... Certains disent que c'est une représentation du métamique, du petite Mishkan Me'at ou un truc comme ça. Ou...
Donc ça voudrait dire quoi?
Mais ça, on dit ça de la maison de chacun, que la table de chacun, c'est le Mizbeach.
Est-ce que ça veut dire qu'ici, on serait devenu assez, je dirais, on n'a plus besoin de cette pédagogie maintenant?
Que nous, on en a besoin et on ne l'a pas. C'est ça le désastre. Mais on est censé, en vérité, on serait censé utiliser l'étude, les psukim, les représentations, etc., pour nous aider à faire le travail, sans qu'on ait besoin de le faire de façon concrète. De façon concrète au sens de prendre des béliers ou des choses comme ça.
Au sens de quoi? De façon concrète, au sens, j'ai pas entendu la fin.
Pas au sens de concrète... Il y aurait des béliers des taureaux dont on va faire la shrita et de pisser la viande, etc. Mais à la limite, de se le représenter dans le texte, de se le représenter, voilà comment ça devrait être, mais en fait, c'est moi. Tout ça, c'est à moi que ça devrait arriver, c'est moi qui dois m'approcher d'Hachem, c'est moi qui dois payer de ma personne, etc.
Des corbanotes précisément, c'est-à-dire cette représentation ici de Kedusha qui est représentée ici par le Mishkan, on n'a plus ça.
Non, alors on dit la maison de chacun doit jouer ce rôle-là. On dirait qu'elle devait le jouer aussi quand il y avait le Mishkan. Bon, maintenant on te dit, on a enlevé les petits trous derrière, là il faut rouler tout seul. Tu veux faire du vélo maintenant? J'ai enlevé les petits trous.
Le Mishkan, il était visible par l'ensemble du plan. Là, chacun est chez soi, essaye de faire son lieu. Nous, on est pareil quand même. Il y a la représentation.
Mais peut-être que c'était nécessaire à un moment donné, avant de faire le... C'est la question du premier Beth-Amikdash, que...
Je veux dire qu'on serait maintenant...
Ce n'était pas destiné à ce qu'il y ait une représentation éternelle, mais peut-être transitoire.
Et dans ce cas-là, il n'y aurait pas lieu de porter le deuil du Beth Amikdash.
Non, je parle du Mishkan, pas de...
Mishkan, c'est la même chose. Ouais. Mishkan, il a été transféré, il est devenu Beth Amikdash parce qu'il a été détruit. Le Mikdash, il a disparu par le haut, si vous voulez. C'est-à-dire il a été remplacé par, etc., quand on s'est stabilisé. Puis finalement, David Amelach, il a dit on devrait faire un truc en dur. Et c'est Shlomo Amelach qui l'a construit. Il a remplacé le Mishkan.
Oui, c'est ça qui est important. C'est le Mishkan, ouais. C'est pas même le Beth Amikdash.
C'est dans le texte de la Torah, on n'a pas de Beth Amikdash. On parle de... Il y a que c'est marqué Mikdash, mais ici. Le Mishkan est appelé Mikdash, ici. Je viens de le lire. Il y avait aussi dans le partout il y avait du Kodesh HaKodashim. Dans les trois, il y avait dans le Mishkan, il y avait un Kodesh HaKodashim aussi.
Oui, on l'appelle si c'est le lieu.
Mais c'était pas un lieu par définition puisque on le transportait. C'était vraiment pas un lieu, c'était un espèce de lieu momentané. Ah tiens, quand on arrive ici là, on va monter le Mishkan, ça sera le Kodesh HaKodashim. Qu'est-ce que c'était avant? Qu'est-ce qu'il y avait avant là-bas? Il y avait les troupeaux qui paissaient. Bon, on a chassé les troupeaux, on a placé le Mishkan. Voilà, on s'est arrêté là.
Bonsoir, merci.
Bonsoir.